à manier avec tellement de précautions qu'il vaut mieux ne pas manier ça du tout, qu'il faut remonter un petit peu, et qu'il prétende le faire, dans cette mémoire oubliée. Tout ce que je peux vous dire, d'après ce que je sais, de ce que je sais de cette question dans la tradition elle-même, c'est tellement dangereux qu'il vaut mieux ne pas ouvrir la porte. Si, c'est, il faut. Je veux dire, la chose la plus normale, c'est d'être normal. On est né dans cet oubli, c'est que c'est normal de l'oublier. Ce n'est qu'à la fin, vraiment à la fin, que ça nous est dévoilé. Alors ceux qui ont réussi diront « oh » et ceux qui ont échoué diront « ah ». Ou l'inverse. Alors peut-être qu'on retrouvera ça quand on parlera des Vilgulines d'autre part. Voilà donc ce que je disais, c'est qu'a priori, il n'y a aucune fatalité qu'Ésaü soit rachat et que Jacob soit tzadik. La destinée est que l'un est Ésaü et qui doit être Ésaü, et l'autre est Jacob et qui doit être Jacob. Et comme nous allons le voir immédiatement, Ésaü peut être ou tzadik ou rachat, et Jacob peut être ou rachat ou tzadik. Et finalement, Ésaü a choisi d'être Ésaü rachat, et Jacob a choisi d'être Jacob tzadik. Il faut donc éclairer qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Mais au moins formellement, j'espère avoir indiqué qu'il n'y a pas de fatalité a priori à ce niveau-là. Est-ce que c'est clair? Même si ça semble contredire une atmosphère de familiarité faussée que vous auriez avec ces sources-là. C'est clair? Je pense que très souvent, au Talmud Torah, on a l'habitude de dire a priori que dès le sein de sa mère, Ésaü était Rachab, et dès le sein de sa mère, Ésaü était Jacob. Jacob était tzadik, une minute, j'ai vu. C'est pas si simple que ça. Nous avons par exemple un midrash, que les chassidim ont beaucoup développé. Il y a un midrash qui nous dit que quand Rivka était enceinte, si elle passait devant une synagogue, Jacob voulait sortir. Tzadik. Okay. Si elle passait devant un cabaret, ça c'est Ésaü qui voulait sortir. Enfin, le midrash comme tel semble dire fatalité. Déjà, Mimeaïr, un était rachat, l'autre était tzadik. Bon, il faut d'abord expliquer en quoi. C'est être tzadik que d'aller dans une synagogue, c'est pas évident. Et en quoi c'est être rachat que d'aller dans un cabaret. Alors justement, les chassidim expliquent ça comme ça. Ils ont d'ailleurs même la référence qu'ils utilisent. Il dit, les Mishnah qui dit, Aspanim la Gerinam ou Boshetpanim la Ganaïde. Je traduis, Aspanim, comme on dirait, un insolent, non, pas Aspanim. Non, qu'est-ce que je dis? Aspanim, c'est pas Rassou. Non, Aspanim, c'est violent, impétueux. Enfin, je. Arrogant. Oui, à peu près. Je ne veux pas vous donner des profils contemporains. Vous avez deviné de quelle partie je suis. Et puis, Boshetpanim, ça veut dire pudique. Oui, Alors, et pourtant, le matin, au début, c'est le début du Shrabaouk, on cite une Braïta, dit Eve As Kanamer la Sotretsonami. Soit As comme le tigre. Il y a une différence entre As et Aspanim, quand même, au niveau de la langue. Aspanim, c'est quand même un qualificatif péjoratif. Tandis que As, ça veut dire vaillant, la force. Mais enfin, en utilisant cela, le Rassidim dit ceci. Je ne vais pas vous dire dans quelle école, mais il mérite de mettre ça à l'actif de toute la Rassidim. Il dit Yaakov, au niveau Yaakov, avant qu'il ne reçoive le nom d'Israël, avant qu'il ne fasse la preuve qu'il est Israël, Yaakov était Maïchan. Il était. Comment on dit, Boshet Panim,
okay?
Pudique. Oui. Alors il ne pouvait être à l'aise que dans la synagogue. C'est clair. Vous voyez, Yaakov, dans le cabaret, il s'évanouit avant d'entrer. C'est pas vrai. Vous voyez, un Talmid Chacham entrer dans un cabaret, il ne peut pas. C'est clair. À moins que. Avant que ce soit pas un cabaret. Alors que. C'est pourquoi, lorsque Rivka passait devant la synagogue, c'est Jacob qui voulait sortir pour aller lire Tehillim à la synagogue. Tandis que, quand elle passait devant un cabaret, Jacob avait peur de rentrer là-dedans. Et Ésaü disait, moi j'y vais. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Seulement il s'est fait avoir. Vous avez compris qu'il n'y a pas de fatalité a priori. Est-ce que c'est clair? Mais je vais continuer l'analyse, mais il n'en reste pas moins qu'on ne peut pas, on peut en tout cas très difficilement, se dépouiller de ce sentiment que malgré tout, Ésaü va naître handicapé, du point de vue de cette qualification morale, tzadik ou rachat. Mais malgré tout, j'insiste et je répète, c'est au-delà, il faut évacuer cela d'un quelconque principe faux de mentalité grecque, de destin, fatalité a priori. Vraiment, il a la, comment dire, la problématique qu'il a choisie. Il a choisi la plus difficile, comme on le verra, la plus difficile, je veux dire, la plus risquée du point de vue moral, mais c'est lui qui l'a choisie. Je veux dire, il faut revenir au principe de tout à l'heure, avant la naissance, etc. Est-ce que c'est clair? Bon. Je vois qu'il y a une question là-bas, mais je vais juste récapituler pour que ce soit bien clair, et en avance d'analyse, je n'ai pas terminé l'analyse. Je veux dire donc que la difficulté, l'impossibilité monstrueuse d'un monstre contradictoire, qui serait à la fois Jacob et Esaïe, étant une impasse, voici comment la naissance va se faire. C'est ce qui est dit à Rivka dans le Vayomer Hachem du verset 23. Au verset précédent, à la fin, va teler l'hydroche et Hachem. Ce qui se passe en elle, en germe déjà, est tellement nouveau, cet entremêlement, entrecoursement des enfants dans son propre sein, est tel que elle va demander au Beddin, nous dit le Midrash, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu lui répond, ben voilà, on les a séparés en deux. Au lieu que ce soit un enfant unique, impossible, il va y avoir une histoire qui commence avec deux jumeaux contraires l'un à l'autre. L'élément nouveau que j'ai ajouté dans l'analyse aujourd'hui, c'est cela. Ça ne veut pas dire qu'a priori, Esaü a la fatalité d'être achar et Jacob la fatalité d'être tzaddik. Ça veut dire a priori qu'Esaü a la fatalité, si j'ose dire, la destinée en tout cas d'être Esaü et Jacob d'être Jacob. Et qu'est-ce que c'est encore peu. Est-ce que c'est clair jusque-là? L'enjeu de la rivalité étant d'ailleurs d'être Israël. Bien, ta question maintenant, et j'enchaîne sur ce point. Oui, qui a posé une question?
Oui, il a peut-être s'améliorer. Celui qui dédie un mal, comment il peut espérer s'améliorer?
Alors, si je t'ai bien compris, si je parlais pendant un quart d'heure, pour rien. D'accord, alors je reprends la même. Je veux dire qu'on est tellement habitué à cela, attends, je voudrais répondre à cette question, que Esaü c'est le mal et que Jacob c'est le bien, qu'on croit que c'était fatal, imposé a priori, et donc ta question aurait une place, c'est-à-dire comment s'améliorer si on... Mais justement, j'ai évacué tout cela. C'est a posteriori qu'on va s'apercevoir que Esaü est devenu un Esaü rachat. Il aurait pu être un Esaü tzaddik. Qu'est-ce que c'est que cette créature? On va voir tout à l'heure. Un Esaü tzaddik. Mais c'est ça un grand point d'interrogation. De la même manière, Jacob aurait dû échouer. Et on ne nous aurait pas raconté l'épreuve qui fait qu'en fin de compte, seulement il reçoit le nom d'Israël. C'est quand il a réussi. Donc c'est qu'entre-temps, il aurait pu échouer. Bien sûr, on ne refait pas l'histoire à l'envers. Hein. Il y a que Jacob qui pouvait être Jacob. Il n'y a qu'Esaü qui peut être Esaü. Mais si les deux étaient de tzaddikim, le temps messianique aurait été à ce moment-là déjà. Et rappelez-vous ce que disent Isaac, ce que disent Rivka, mais je crois qu'on va se quitter ce soir avant d'élucider ce thème, même si ça nous prend un peu plus de temps. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Non, je n'ai pas donné le contenu de la réponse, mais j'ai répondu formellement. Je veux dire, il faut d'abord se dégager de l'habitude de penser, de croire que c'était fatal a priori. Qu'un soit tzaddik que l'autre soit rachat. Ça va jusque-là, au moins? Attends. Je veux te dire, pour être celui qu'on est, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, naître avec des yeux bleus ou des yeux marrons, naître avec des cheveux rouges ou des cheveux pas rouges. Enfin, on dit ça roux, je crois. Mais être moral ou immoral, ça c'est autre chose. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Quand j'ai dit tout à l'heure que chacun ne veut pas être autre chose que lui, c'est qu'il prend conscience de cela. Mais il souhaiterait l'être mieux. Ça c'est le niveau moral. Il est évident que il y a deux niveaux complètement différents. La vocation existentielle, celle-là, chacun est un génie propre pour lui-même, et il est ce qu'il est, c'est comme ça qu'il est né. Il n'y a pas de problème de savoir pourquoi il n'est pas autrement. S'il y a des psychologues parmi nous, vous savez que c'est déjà un signe clinique inquiétant lorsque quelqu'un se demande pourquoi il est ce qu'il est. Du point de vue de son identité, on appelle ça un complexe d'identification. Mais le niveau moral, étant donné qui je suis, être tzaddik ou rachat, ça c'est entre les mains de ma liberté. Avec tous les aménagements, des conditionnements avec lesquels j'ai à me connecter, Mais c'est mon problème après la naissance. Ça, ça m'est pas donné. Je peux être aidé parce que les circonstances font que je suis placé plutôt là qu'ailleurs, mais sauf, ici, on est jugé toutes circonstances connues. Il n'y a pas de fatalité d'être jugé comme Rachab, d'être jugé comme Tzadik, qu'on aurait pu le croire. Alors j'arrive tout de suite à la réponse. Ta question est sur le sujet ou plus tard ? À toi. Alors lève-toi qu'on t'entende bien fort parce que moi j'ai. Répète la phrase, il y a un mot qui m'échappe. Ça, je le dis moi-même. Mais j'ai ajouté, il a choisi d'être Esaü. Rappelez-vous, j'ai parlé un quart d'heure pour ça. Bien, alors je vais aller tout de suite au problème. D'après même le récit de leur vocation, après tout, on peut se demander pourquoi la Torah a tellement voulu, pourquoi la Torah a voulu, a tellement pris attention à cela, pour nous dire quel genre de métier ils ont choisi. Alors, d'après leur vocation, et vous ferez appel à tous les Midrashim qui élargissent tout cela, on s'aperçoit que Esaü et Jacob ont à eux deux à résoudre le problème de la vocation humaine. Mais c'est le problème de la vocation humaine qui est lui-même contradictoire et qui lui-même implique une opposition de vocation. Et là, il y a différentes étapes jusqu'à arriver à la réussite totale. Il y a deux vocations humaines, en schématisant, radicalement différentes. Il y a des faisceaux de vocation, mais deux dimensions radicalement différentes. La vocation spirituelle et la vocation temporelle. J'explique les termes. La vocation spirituelle, c'est-à-dire la vocation de tout ce qui va aux choses de l'esprit. La vocation temporelle, c'est la vocation matérielle, en fin de compte, les métiers de la matérialité de la vie terrestre. Et dès l'origine, l'homme est confronté à cette difficulté. Il y a une première tentative de la résoudre dans la différence des vocations entre Caïn et Abel. Caïn qui travaille la terre et Abel le berger. Derrière, il y a déjà ce même problème. La vocation temporelle, Caïn travaille la terre, et ce monde-ci, et Abel le berger, c'est-à-dire le frère, celui qui s'occupe de l'autre, en fin de compte, à la limite, le pasteur, le Cohen. Bon. Et ça échoue au niveau Caïn Abel. Nous avons cette même équation d'identité qui revient avec ces deux jumeaux-là de la famille d'Abraham, Esaü et Jacob. Alors tout de suite, on est averti qu'Esaü a choisi la vocation temporelle, matérielle, alors que Jacob a choisi la vocation spirituelle. Nous avons donc deux niveaux différents. Tzadik Rachar, on le laisse en suspens, et d'autre part, vocation spirituelle, vocation temporelle. Alors je vais substituer le deuxième au premier, on retrouvera le premier par la suite. C'est-à-dire, ce qui est la destinée de chacun de ces deux enfants, au bénéfice des analyses précédentes de préface qu'on a eues, c'est la vocation temporelle qu'a choisi Esaü et la vocation spirituelle qu'a choisi Jacob. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne suffit pas d'être de vocation temporelle pour être Rachar. On peut être de vocation temporelle et être sadique, mais c'est très difficile. C'est là le handicap d'Esaü, et c'est lui qui l'a choisi. De la même manière, il ne suffit pas d'être de vocation spirituelle pour être sadique. On peut être de vocation spirituelle et être Rachar. Est-ce que c'est clair ? C'est clair ou c'est pas clair. Bon. Voilà, c'est ça qu'il fallait réintégrer. Leur destinée, c'est ce que la Torah nous raconte. L'un est devenu chasseur, il va chercher à manger. Et son père, le tzadik, lui dit, oui, mais fais attention, la pêche que lui n'a pas peur, j'aiguise mes flèches, je peux deux voies, vous connaissez ce midrash. Hein? Et Isaac fait confiance à Esaü. Il est chasseur mais caché. Qu'est-ce que c'est que ce monstre-là, un chasseur caché, hein? Vous voyez, quelle est la ligne qui apparaît là? C'est la vocation temporelle. En fin de compte, la vocation temporelle, c'est la vie de ce monde qui, premièrement, ça passe par avoir à manger. Deuxièmement, la vocation spirituelle. Et Yaakov, Yoshev, Oralim, tout de suite le Midrash nous dit, Orel, c'est la maison d'études. Vous voyez, alors, a priori, le premier point, ces deux vocations sont incompatibles. Et pourtant, il faut les résoudre les deux, pour que le problème de la vocation humaine soit résolu. Alors la stratégie de la Providence, étant donné l'impasse de cette monstruosité, parce qu'est impossible les deux à la fois, en premier moment, je dis bien, va séparer les deux vocations. La clause de la fraternité va pouvoir résoudre le problème. Si les deux sont frères, ils partageront leurs biens réciproquement. Si la clause de fraternité ne joue pas, il y a échec. C'est clair ? Je vais le dire en termes de Midrash maintenant. Ésaü, c'est l'homme de ce monde-ci. Alors il va avoir deux parts dans ce monde-ci, et il donnera une part de ce monde-ci à Jacob, qui lui est l'homme du monde à venir, et qui, la clause de fraternité jouant, mais elle n'a pas joué, lui a deux parts du monde à venir, et il partagera avec son frère. Donc les deux auront les deux. C'est clair jusque-là ? Voilà, c'est une des manières de voir le problème. Je pense que c'est clair. Qu'est-ce qui est arrivé ? C'est qu'Ésaü, choisissant la vocation temporelle, est devenu rachat de la vocation temporelle, et que Jacob, choisissant la vocation spirituelle, est devenu tzaddik de la vocation spirituelle. Et donc le conflit est d'autant plus grave. C'est clair ? Parce que c'est un conflit limite. Voilà, je crois que je vous ai dit l'essentiel sur ce point, et ça résout tous ces problèmes. Okay. Non. Non, je ne sais pas si j'ai bien entendu votre question, mais si la clause de fraternité avait joué, alors Ésaü serait par exemple devenu banquier. Donc, c'est une manière d'être chasseur, je suppose. Et puis Jacob serait devenu Rosh Yeshiva. Alors comment vous définissez Yeshiva marche si le banquier n'envoie pas la magbite? Et si le banquier envoie la magbite, le Rosh Yeshiva va lui faire une bracha. C'est comme ça qu'ils partageront. Vous avez compris? Mais pour ça, il faut que la... Mais on a besoin de banquiers pour que ça marche. Je ne sais pas pourquoi il y a tellement de banques en Israël, il doit y avoir une raison. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire des gens qui savent manier ce problème mystérieux qui s'appelle le problème économique. Moi, je ne comprends strictement rien depuis que je suis en Israël, mon cher. Il doit y avoir des gens qui comprennent, je ne sais pas où ils sont. Et les gens qui s'occupent de ça, qu'en fin de compte, il y a un verre de thé à côté du livre. Il faut un livre à côté du verre de thé. Et il faut que la clause de fraternité joue. Et vous retrouvez d'ailleurs ce thème qui traverse tout le récit biblique, en particulier le plan de la Torah concernant la tribu de Lévi et les autres tribus. Les autres tribus sont au niveau de la vocation d'Ésaü, si j'ose dire, et la tribu de Lévi au niveau de la vocation de Jacob. Si la clause de fraternité joue, ça marche, si ça ne joue pas, ça ne marche pas. Ça, c'était le plan d'Isaac. Mais pour ça, encore une fois, il fallait que Ésaü devienne un Ésaü tzaddik, et que Jacob devienne un Ésaü, un Jacob tzaddik. Jacob est devenu un Jacob tzaddik, okay, mais Ésaü n'est pas devenu un Ésaü tzaddik. C'est là que je reviens en arrière. Il semble que tout soit clair maintenant, qu'il soit dénoué. Il reste quand même une perplexité. Est-ce que la vocation d'Ésaü ne le handicape pas a priori? Est-ce que c'est pas plus facile de devenir impur si on s'occupe de la matière que de devenir impur si on s'occupe de l'esprit? Alors, des feux de roue de cette impression. L'histoire montre que c'est peut-être l'inverse. C'est peut-être plus facile de devenir impur quand on s'occupe des choses de l'esprit que de devenir impur quand on s'occupe des choses de la matière, quand on ne veut pas devenir impur. Je vous donne un exemple. Je ne veux pas choquer les consciences, mais il y a énormément de vocations spirituelles et religieuses dans la grande humanité qui nous entoure, mais c'est plein d'impureté. C'est des gens de l'esprit, parfois c'est même des gens d'esprit, des gens qui s'occupent de l'esprit, mais impureté totale. Vous êtes rentré une fois dans une église, bon. Et pourtant on s'occupe de l'esprit. Ça ne veut pas dire qu'à l'échelle individuelle, bon, ça c'est des vues de mérite que les chassidés au Motarolam peuvent avoir individuellement. Mais il est évident que ici il s'agit d'Ésaü s'emparant de la vocation de Jacob et la rendant impure. Ce fameux verset, je ne sais pas si on aura le temps de le lire, mais je vous l'indique. Akol kol Yaakov ve'Edaïm yeder Esav, c'est-à-dire la voix, c'est la voix de Jacob, et les mains, c'est les mains d'Ésaü. Vous vous rappelez à quel moment ce verset est situé? Lorsque Jacob, sur l'instigation de Rivka, qui elle sait que la clause de fraternité ne va pas jouer, parce qu'elle connaît ses enfants, hein, et elle les connaît les deux. Okay, tant que Jacob est Jacob, il ne peut pas aimer Ésaü. Et tant qu'Ésaü est Ésaü, il ne peut pas aimer Jacob. Elle les connaît les deux. Alors elle sait que ça ne va pas jouer, elle va substituer à Jacob, Jacob à Ésaü, nous allons voir pourquoi. Et lorsque. Voilà, vous êtes au verset 22 du chapitre 27. Et lorsque Jacob Lorsque Isaac sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il pense qu'Ésaü est là. Mais qui est là? C'est Jacob. Hein? Alors il dit ce verset terrible, « Vayomer » et il dit, au milieu du verset 22, « Akol kol Yaakov, la voix c'est la voix de Jacob, vayadaim et d'Esa. » Et les mains, c'est les mains des autres. Vous y êtes? Alors, je reprends la scène. Dans la pensée d'Ésaü, dans la pensée d'Isaac, c'est un Ésaü qui parle comme Jacob, puisqu'il croit que c'est Ésaü. Okay? Mais dans la réalité, c'est un Jacob qui a les mains d'Ésaü. Vous suivez? Bon. Alors, j'isole une des quatre figures. Parce qu'il y a Jacob, il y a Jacob, les mains d'Ésaü, il y a Ésaü, et Ésaü, la voix de Jacob. Ça fait quatre figures. Okay? J'isole une figure. Un Ésaü qui parle comme Jacob. Okay? Un Ésaü qui parle comme Jacob. Qui a pris la voix de Jacob. C'est un goy lisant la Bible. Vous voyez où ça se passe? Un goy lisant la Bible. Vous voyez où ça se passe? Okay? Je pense que c'est clair. Donc, c'est tout. Vous voyez, donc, je reviens à notre analyse. L'idée qu'il suffit de s'occuper des choses de l'esprit pour devenir tzaddik, il faut corriger ça. L'idée qu'il suffit de s'occuper des choses de la matière pour devenir rachat, fatalement, il faut corriger ça. C'est une impression que nous avons à travers de pseudo-évidences qui, au fond, viennent de données immédiates de la conscience occidentale, que la matière est impure et que l'esprit est pur. Est-ce que c'est clair? La matière n'est pas impure a priori, c'est Dieu qui l'a créée, et toute vocation qui va avec. Bon. L'esprit n'est pas fatalement pur, nécessairement pur, puisque c'est donné à l'option de la liberté. Est-ce que c'est clair? Voilà, je crois qu'on a bouclé cette première analyse, c'est ce que je voulais indiquer. Ça va jusque-là? Alors au fond, je pourrais le résumer par la formule suivante. Ce que la Torah nous raconte, c'est la problématique essentielle des deux vocations humaines. Et j'en étais au premier moment. Vous voyez, nous sommes toujours dans le problème de la klipa pnimit de Aram. J'en étais qu'au premier moment, lorsque je vous disais que ces deux vocations sont a priori, premièrement, inconciliables. Pour être vraiment un homme de la vocation spirituelle, il faut être entièrement un homme de la vocation spirituelle. Pour être vraiment un homme de la vocation matérielle, il faut être entièrement un homme de la vocation matérielle. Il ne faut pas mélanger. Celui qui doit s'occuper des mains d'Ésaü ne peut pas s'occuper de la voix de Jacob. Celui qui doit s'occuper de la voix de Jacob ne peut pas s'occuper des mains d'Ésaü. C'est clair? Bon. Et pourtant, l'idéal, c'est d'arriver à faire émerger un type d'homme qui serait les deux à la fois, puisqu'au point de départ, c'est de ça qu'il s'agit. Et quand ce type d'homme, capable d'avoir la voix de Jacob en tant que tzaddik, les mains d'Ésaü en tant que tzaddik apparaît, alors apparaît l'identité messianique, elle s'appelle Israël. Israël, c'est les deux vocations réussies. Jacob, c'est une seule. Ésaü, c'est une seule. Voilà, là, je crois qu'on a progressé dans l'analyse. Ça va jusque-là? Bon, je vous cite, sans le citer, le Gaon de Vilna. Prenez le verset 22. Le Gaon de Vilna qui va nous faire remarquer une chose que le Midrash fait remarquer déjà, c'est que le premier mot, kol, de hakol, kol yaakov, est écrit haser, sans le vav. Okay? C'est clair? Ça veut dire une voix faible. Et le Gaon de Vilna, un kol, kal. Okay? Et le Gaon de Vilna explique comme ça, quand la voix de Jacob est faible, alors les mains, c'est les mains des amis. Mais quand la voix de Jacob est pleine, même les mains, c'est les mains de Jacob. Et ça s'appelle Israël. Vous voyez? Vous citez d'ailleurs un autre midrash dans la Gemara, qui est la Gemara de Gittin, qui nous montre dans l'échec comment ça va se séparer. La Gemara de Gittin dit ceci: la voix, c'est la voix de Jacob, c'est la prière. Les mains, c'est les mains d'Ésaü, c'est la guerre. Vous voyez, quand en plein dans l'échec, ça se sépare. Voilà comment ça se sépare. Qui veut harbi ou veut kashti? Le Midrash dit le Bakashati. Je vous donne la référence, c'est dans Gittin, et bien j'ai pas marqué. Je crois que c'est 57. J'ai pas marqué, mais je vous donne ça sous toute réserve. Une minute, on va démarrer de Gittin. Voilà la référence. En lechat fila, chez Moëlet, chez Enba, Mizaro, chez Yaakov. Tu ne trouves pas de prière effective, ou Moëlet, efficace, elle, qui ne soit pas liée à la descendance de Jacob. Et Et tu ne trouves pas de guerre triomphante qui ne soit pas liée à la descendance des Aïfs, des fabricants d'armes. Il y a Al-Harvechat aussi. Vous voyez donc cette séparation. C'est-à-dire, le drame, la catastrophe, l'échec, c'est le manque de la clause de fraternité. Alors, ce qui est arrivé, je crois que j'ai déjà élucidé ce fait, enfin évacué cette pseudo-évidence que l'option matérielle mène fatalement à l'impureté. Non, il y en a priori de la moralité, ça dépend de ce qui signifie. Alors, nous avons plus tard un personnage que la Gomara va définir comme Sitno Shel Esav, l'antagoniste d'Ésaü. C'est lui qui va être capable d'abattre Ésaü, et c'est Yosef. Yosef a la vocation temporelle et exadique. Ok ? Et la figure, le profil de l'identité de Joseph est très important. Et c'est Yehuda qui va hériter de la vocation spirituelle de Jacob centralement. Le verset dit Shema Hashem Kol Yehuda. Le Kol Yaakov, on le retrouve dans le verset de Kol Yehuda. Et lorsque Yehuda et Yosef s'allient, alors il y a Israël. Vous voyez donc un peu en préfigure. Prospective, ce qui se passe dans la suite. C'est bien clair ? C'est-à-dire, ce problème non résolu entre Jacob et Ésaü, nous allons le retrouver intériorisé dans la descendance de Jacob, avec les deux polarités, Joseph et Judas. Jusqu'au bout, on va douter de Joseph. On va croire qu'il camoucha que Pharaon. On va croire qu'il a pris fait et cause pour Ésaü. Okay ? Et il se dévoilera que Joseph est sadique. Et lorsque les frères se reconnaissent, le livre de Bereshit s'achève parce qu'Israël est né. Et donc c'est la réussite convergente de ces deux vocations, les deux, dans l'option tzadique, qui fait naître Israël. Alors nous avons appris énormément de choses entremêlées, ou pas entremêlées à la fois. Je crois que le premier principe essentiel mérite d'être rappelé, il y a une destinée de vocation, mais pas de la moralité. Mais pas de fatalité de la moralité. Pas un destin moral. Bon. Et puis deuxièmement, l'importance, je crois que c'est pas un chidouche, c'est l'enseignement de la Torah. Je veux dire, je ne renouvelle rien. Mais à travers l'exil, on s'est habitué à oublier ça. Que la vocation d'Israël, c'est pas que la vocation de Jacob, c'est les deux vocations. Et lorsque les deux réussissent, il y a Israël. Ça va jusque-là. La preuve, c'est que pour mériter l'énerce, qui est une des étapes, la Bechora, pour recevoir le nom d'Israël, il fallait que Jacob fasse la preuve qu'il savait faire à manger lui aussi. Vous vous rappelez ? Le roux, le Naadom, 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 cette nourriture qui rend le goût de vivre à celui qui l'a perdu, les amis. On a posé la question, qu'est-ce que c'est que ce fils d'Isaac qui rentre du désert affamé ? Isaac était très riche, on sait que c'était un prince. Il avait 300 esclaves qui se mettent à ses genoux, Ésaü, puis Isaac pour lui donner à manger. Qu'est-ce qu'il a besoin de vendre son ménage pour un plat de lentilles ? Il s'agit de toute autre chose. Que Jacob sait préparer cet élixir qui rend le goût de vivre à celui qui l'a perdu. Et Ésaü est revenu fatigué de sa propre vocation, fatigué de vivre. Il n'y a pas affamé, il y a Aïef, fatigué. Ça veut dire qu'il s'est fait avoir par son problème. Vous avez tous ces hommes qui, à force de n'avoir que des métiers, aucune vocation, ont perdu le goût de vivre. Ça, c'est un peu le drame existentiel d'Ésaü. Et alors, il cherche quelqu'un qui lui redonne le goût de vivre, une espérance. Ça, c'est Jacob qui prépare le plat de l'ange. Ça va jusque-là ? On pourrait analyser plus, mais en tout cas, c'est suffisant. Je crois que, il me semble que je vous ai oublié, je m'entends pas. Parlez fort, parce que... D'accord, très bien, c'est la même chose. C'est la même chose. Il sera résolu. C'est le même thème. Très bien. Alors, nous allons avancer et je vais essayer maintenant de prendre comme problème l'accusation qui est habituellement portée lorsqu'on dit que superficiellement contre Jacob d'avoir dérobé la bénédiction d'Ésaü. C'est clair jusque-là ? Alors, pour cela, il faut d'abord se rappeler qu'Isaac avait à transmettre deux bénédictions différentes. Il avait d'abord à transmettre la bénédiction temporelle. Et dans son plan à lui, elle devait aller avec Ésaü, avec le raisonnement suivant, Ésaü a choisi la vocation temporelle, c'est très bien. Il en sera capable, puisqu'il l'a choisi. Enfin, je veux dire, il la réussira, il partagera avec Jacob. D'autre part, il y a une deuxième bénédiction, à laquelle on ne pense jamais, mais qui est dans la même paracha, je vous donne la référence tout de suite, la bénédiction spirituelle, celle qui vient d'Abraham. Et celle-là, dans tous les cas, devait être donnée à Jacob. Alors, on commence par la deuxième. Vous l'avez au chapitre 28, verset 4. Chapitre 28, verset 4. Vous y êtes ? Donnez-vous la page.
129.
D'accord. Alors, verset 4 du chapitre 28. Lorsqu'en fin de compte, Jacob va être obligé de s'enfuir devant la colère d'Ésaü, et aussi pour aller prendre femme dans la famille d'Abraham, c'est la deuxième dimension du récit. Alors Isaac lui dit, le bénit en lui disant, « Veiten lecha et birkat Abraham, lecha uzaacha itra, et il te donnera la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité. » Les riches de Khaïtéret Megorecha, chez Nathan Elohim et Abraham, afin que tu hérites du pays de tes voyages que Dieu a donné à Abraham. Mais si on se réfère, ça nous l'avons dit peut-être la dernière fois, ou la fois d'avant, aux promesses données à Abraham, nous voyons qu'il y a toujours un faisceau de trois promesses à la fois, qui sont rappelées à Isaac, qui sont confirmées à Jacob. Asher Karat et Abraham, Ushvuato le Yitzhak, Yahamidea le Yaakov le Hok, ou l'Israël Berit Olam, les quatre niveaux de confirmation de l'Alliance, et qui sont la terre, le peuple et la Torah. Alors là, notre plan s'éclaire d'autant. C'est le fait qu'il y a deux bénédictions de nature différente qui doivent être transmises. Jacob a choisi la vocation spirituelle, il sera béni de la vocation spirituelle, il partagera avec Ésaü. Ésaü a choisi la vocation temporelle, il sera béni de la vocation temporelle, il partagera avec Jacob, c'est le plan de Isaac. C'est clair ? Rivka, elle, sait que Ésaü a choisi d'être Rachar, alors que Jacob a choisi d'être Tzadik, et que ça ne marchera pas ce plan-là. Vous suivez ? C'est pourquoi elle intervient. Elle intervient comment ? Premièrement, je n'aurai pas le temps de le faire, mais je vous l'indique, elle le sait que Ésaü ne pourra pas être Israël, parce qu'il a pris pour femme des femmes cananéennes. C'est ce qui s'entremêle dans le récit et qui nous donne le nœud du problème. C'est, le texte nous dit, fin du chapitre 26, dernier verset du chapitre 26, que les femmes qu'avait prises Ésaü étaient mauvaises aux yeux de Isaac et de Rebecca, les deux. Okay. Mais c'est Rebecca qui prend l'initiative de dire à Isaac, si Jacob prend des femmes cananéennes, on a tout perdu, je paraphrase, envoie-le chez mon frère, peut-être, le miracle qui s'était produit à la génération Isaac-Rivka se reproduira pour Jacob. C'est un miracle abondant qui s'est reproduit pour Jacob, pas seulement une, mais quatre. Il y a des raisons pour ça, mais je reviens à notre sujet. C'est pourquoi, et c'est là que j'arrêterai l'analyse, c'est pourquoi Rivka va imposer par sa stratégie à elle la seule issue possible. Laquelle ? On reprend les quatre données de notre problème. Un Jacob qui ne serait que Jacob, c'est-à-dire une vocation spirituelle qui ne serait que spirituelle, coupée de la vocation matérielle. Deuxième donnée, un Ésaü qui ne serait qu'Ésaü, vocation matérielle qui ne serait matérielle, coupée de la vocation spirituelle. Troisième possibilité, et ça c'est la prétention de la chrétienté à travers Ésaü, qui a sa racine dans Ésaü, l'homme de la vocation matérielle s'emparant de la vocation spirituelle. Quatrième possibilité, celle de Rivka, celle du plan de Rivka, celle de l'histoire d'Israël, l'homme de la vocation spirituelle s'occupant de la vocation matérielle. Alors, les deux premières, c'est le surplace. Okay. Le problème humain n'est pas résolu, la vocation spirituelle se sépare de la vocation matérielle et réciproque. Tant que Jacob n'est que Jacob, Ésaü est Ésaü. C'est clair ? La troisième, la prétention d'Ésaü aboutit à l'échec total. L'homme de la matière, s'occupant du problème de l'esprit, va projeter les réalités de la matière dans l'esprit, c'est-à-dire l'impureté totale. Et nous l'avons en particulier, cela on l'étudiera plus en détail à la soirée pour Rosh Chodesh Kislev, je traiterai de Hanouka, dimanche soir. C'est le fait que la culture grecque ça préfigure déjà tout ce que va être la culture occidentale dans ce problème. À projeter dans le domaine de la vie de l'esprit les règles du déterminisme matérialiste qui ne sont valables que dans le domaine matériel. Ce conflit-là, on va l'analyser beaucoup plus longuement dimanche soir. Mais je pense qu'il suffit de le formuler ainsi pour que vous voyez la gravité de cet enjeu. Dans le cas romain, c'est, comme je disais tout à l'heure, le goy lisant la Bible. Enfin, imaginez un romain lisant la Bible et disant « c'est moi Israël ». Rabbi Astérix dirait « ils sont fous ces romains ». Imaginez ce qui s'est passé. Hein. Vous avez entendu un romain avec la Bible. Hein. Alors, tant qu'ils disent pas « c'est moi Israël », ça va très bien. On les félicite de si loin que vous êtes, vous revenez. D'ailleurs, le Talmud a fait une prophétie pour eux en disant que la majorité des convertis à Israël viennent des Aïus. C'est-à-dire qu'on les a eus, je crois. Mais sinon, c'est une consolation. D'ailleurs, évidemment, c'est pas pour rien que ces peuples-là lisent la Bible jusqu'au point de croire que c'est eux Israël. Mais vous voyez ce qui s'est passé. On a projeté la mort de la matière dans la vie de l'esprit. Mais vous avez tout le mythe chrétien là-dedans. Est-ce que c'est clair ce que vous dites? Roger Rappela. La différence entre une sacristie et une bête knesset. Donc ça c'était la catastrophe. Tandis que le plan de Rivka, qui a réussi, et il faut 6000 ans pour ça, mais ça réussit, c'est que Jacob est capable de devenir Israël, c'est-à-dire que Jacob, s'occupant des tâches matérielles, les transfigure. L'esprit s'occupant de la matière, la transfigure. La matière s'occupant de l'esprit, la rend impure. Voilà toute notre problématique, ce qui s'est passé. Tout aurait pu être autre dès l'origine si la clause de fraternité avait joué. Et on ne peut pas ne pas remarquer qu'effectivement c'est le même schéma qui nous a accompagnés dans l'histoire globale. La clause de fraternité n'a pas joué. Il y a un antisémitisme chrétien qui est préalable au christianisme lui-même. Je vais vous dire une formule que j'ai entendue récemment. C'est pas tellement que l'antisémitisme vient du christianisme, le christianisme vient de l'antisémitisme. Le logiciel, ce renversement de formule. C'est pas tellement que l'antisémitisme vient du christianisme, le christianisme vient de l'antisémitisme de Romain. Et cette clause-là de la haine d'Ésaü contre Jacob. Alors, c'est clair, Ésaü ne peut pas aimer Jacob, étant donné qu'il le haït. Jacob ne peut pas aimer Ésaü, étant donné que Jacob est l'homme de l'esprit et qu'Ésaü c'est l'homme de la matière devenu rachat. Ça, Rivka le sait. Isaac ferme les yeux là-dessus, parce que c'est finalement quand même son plan préalable qui va réussir, mais il va réussir chez les enfants de Jacob, avec Joseph et Judas. Et Issachar et Zbulon, comme on a dit tout à l'heure. Mais dans l'histoire, c'est Rivka qui intervient pour sauver ce principe de l'identité d'Israël qui est en cours d'engendrement, et c'est finalement la seule équation possible dans cette problématique. Je pense que si nous faisons un bilan très 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 rapide, Rome est en train de découvrir qu'effectivement que c'est Jacob qui est Israël et que c'est pas Ésaü. Et je crois qu'on est presque à la fin de cette histoire. Je pense que le trimestre prochain, je demanderai à Abraham Levini, vous avez peut-être entendu le nom, qui vient d'écrire un livre sur ce sujet. Un livre extraordinaire, je crois que c'est le premier qui sera aussi fort dans sa virulence polémique contre le christianisme, avec une stratégie d'écrivain assez exceptionnelle. En particulier, il ne livre au lecteur le fait qu'il était un chrétien converti que vers la 15e page. Alors imagine la palpitation du livre. Et il y a d'autres en préparation d'ailleurs, pas seulement de lui. Je crois que c'est la première fois de notre temps, corollairement à l'identité israélienne, que le peuple juif reprend le courage de dire ce qu'il avait à dire des élus. Est-ce que c'est vrai? Jusqu'à présent, on a courbé les chines. Cette fois, c'est Jacob se prosternant devant Ésaü. Israël est un Jacob redressé. Je dis souvent, l'identité d'Israël en Israël, par rapport à l'identité juive, surtout des pays chrétiens, mais enfin de la diaspora en général, c'est une différence. Le juif de cour est devenu... s'est redressé, tu veux, le juif courbé s'est redressé, et ça, les chrétiens ne s'en sont pas tellement rendus compte. Beaucoup de juifs de diaspora non plus, d'ailleurs. Et il y a là une mise au point à faire et un bilan à faire. Rome est en train de découvrir que c'est le peuple juif qui est Israël. Et les conséquences de cette découverte sont incalculables. C'est la fin de Rome. Bon, je schématise beaucoup, mais un médecin de mes amis me disait une fois il y a longtemps, il y a des hommes qui sont déjà morts mais ils ne le savent pas. Vous comprenez ce que un médecin veut dire par là, okay? Ils sont déjà morts mais ils ne le savent pas. Eh bien, je crois que c'est un peu le cas dans ce conflit. Ésaü est déjà fini et il le sait pas. Il était déjà fini depuis le commencement d'ailleurs, je regrette de ne pas avoir suffisamment de temps pour vous montrer ça, mais vous verrez dans Rashi, sur le nom de Ésaü, la première fois qu'il apparaît dans le texte, il dit, qu'est-ce que ça veut dire Esav? C'est de la racine Asou. Il est Asou, complètement fait, fini. Okay.
Mais le principal reproche de la chrétienté, c'est que nous sommes justement le peuple de la matière.
Exactement, mais ça avec les projections d'inversion de culpabilité. Écoutez, je vous conseille de relire un livre qui m'a beaucoup impressionné lorsque je l'ai lu il y a longtemps. Vous connaissez Albert Londres?
Oui.
Le Juif errant est arrivé. Bon, relisez ce livre-là. C'est la découverte préfigurative de tous les travaux théologiques contemporains. Il a vu ça avant tous les théologiens. Albert, comment on dit, Londres, Londres.
Non.
La découverte de cela, de cette espèce de projection d'identité inversée entre le chrétien et le juif, et le fait que ça concerne surtout les juifs de diaspora. Ça veut dire que nous sommes encore imprégnés de cette mentalité de la diaspora et de la culture de la diaspora. C'est pourquoi il nous semble qu'il y a là encore un conflit ouvert. Pour l'Israélien comme tel, ce conflit est résolu et fermé. C'est Jérusalem, que Jérusalem n'est pas Rome. Est-ce que c'est clair? Vous avez compris ce que je veux dire? Le conflit chrétienté et peuple juif, ça ne préoccupe pas tellement l'Israélien. Pourquoi? C'est un conflit dépassé pour lui. C'est une absurdité. Qu'est-ce que ça veut dire que les Romains se prennent pour... Alors que nous avons vécu dans cette espèce de labyrinthe kafkaïen pendant 2000 ans. Mais, pour sortir de cela, la fin de l'histoire est claire. Ésaü finit par reconnaître que c'est Jacob qui est Israël. En d'autres termes, que c'est les Juifs qui sont Israël. Imaginez une découverte pareille. Les implications de cette découverte sont énormes. Vous pouvez le deviner par vous-même. En particulier, ça vous explique la crispation de l'antisémitisme anti-israélien d'une grande partie des églises, qui vient des églises orthodoxes. Parce que c'est Israël qui est la preuve que c'est le peuple juif qui est Israël. C'est une histoire de fou. Bien, est-ce qu'il y a eu?
Ça veut dire que le baiser que Ésaü donne à Jacob à la fin est un baiser de fraternité ou encore entre le matin?
C'est un baiser missionnaire. Imaginez un baiser du père du bois. Oh, non. Ah, non. C'est ça?
Qui est Moab?
Moab, apprenez l'histoire de Ruth. Vous voyez que Moab est revenu en Israël par Ruth.
Qui est Amon,
ça c'est une autre question. Alors on se revoit dimanche soir.